Ackermann Travelling est à voir jusqu'au 19 janvier prochain au musée du Jeu de Paume à Paris. Il est 16h sur France Culture, l'heure de retrouver Natacha Triou pour la science CQFD. Bonne émission Natacha.
Merci Mathilde et bon après-midi.
La science CQFD, Natacha Triou.
L'exposition Science-Fiction, une non-histoire des plantes, se poursuit jusqu'au 19 janvier à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Quelle est la place du monde végétal dans les imaginaires et la SF ? L'altérité radicale de la vie végétale s'expose à la MEP, avec un parcours qui révèle la fascination des biologistes, horticulteurs et artistes. Dès sa naissance, la photographie est devenue essentielle aux études botaniques. Et au cours du XXe et XXIe siècle, les productions plastiques, cinématographiques et littéraires ont été marquées de l'évolution de la perception des végétaux. Si la SF fait la part belle aux plantes carnivores géantes et aux monstres plantes, l'exposition soulève aussi un point intéressant pour les taxonomistes, celui de l'avenir végétal. Botanique, un terreau pour la SF. Marc Janson, bonjour.
Bonjour Natacha Triou.
Vous êtes botaniste au Muséum National d'Histoire Naturelle et ancien responsable de l'herbier national. Nous sommes en ligne également avec Clotilde Morette, bonjour.
Bonjour, merci à vous pour cette invitation.
Merci à vous, vous êtes directrice artistique de la Maison Européenne de la Photographie, co-commissaire de l'exposition Science-Fiction. Et Jean-Sébastien Steyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste en biologie spéculative. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. X, ex-Twitter, n'est plus une plateforme fréquentable, donc nous avons migré sur Blue Sky et nous vous invitons à nous y rejoindre. C'est sur notre compte @scienceCQFD et vous y retrouverez toutes nos sources et toutes nos ressources. Alors comment la représentation et la compréhension des végétaux ont-elles évolué depuis le 19e siècle ? Dans quelle mesure le monde végétal est-il une source inépuisable de récits ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour et on ouvre nos herbiers. Nous sommes en 1972.
Je vais vous montrer un paquet d'herbiers tel qu'il se trouve dans nos collections, puisque nous avons ici trois galeries qui ont 40 000 cases. Donc il y a 40 000 paquets comme ça, il y en a même des plus gros. Celui-là est peut-être un peu plus gros, il y en a des plus petits aussi. Mais enfin, 40 000 paquets, ceci représente en totalité à peu près 6 millions d'échantillons. Je vais vous montrer aussi autre chose, ce sont les fruits. Parce que lorsque vous avez des spécimens comme ceci, il est évident que les fruits sont très petits. Un gland, ce n'est pas gros et on peut l'attacher facilement sur une feuille d'herbier. Mais lorsqu'il s'agit d'un conifère, d'un araucaria par exemple, justement, voici. Vous voyez, les fruits sont énormes. Alors pour les conserver, il faut les mettre dans des boîtes en plastique. Et sur ces fruits, vous retrouvez le nom du collecteur, le numéro. Voici un herbier très ancien. Voyez-vous ? C'est un herbier qui est collé à la cire avec des petits morceaux d'étain. Nous avons une cinquantaine de volumes de cet herbier, c'est l'herbier Aller. Voici maintenant l'herbier Jean-Jacques Rousseau. Nous avons aussi une quinzaine de volumes de cet herbier. Voici un herbier qui est très joli. Vous voyez, c'est de la marqueterie. Alors, vous voyez ici, les échantillons sont montés, c'est un montage. Au point de vue scientifique, il n'a pas beaucoup de valeur, mais en fait, il est très joli. Voici maintenant le plus vieil herbier, ou tout au moins un des plus vieils herbiers du monde. Il s'agit de l'herbier Jean Giraud. Il date de 1558. Vous voyez, c'est un herbier qui est cousu. Vous voyez les plantes, et vous voyez les morceaux de fil, là, qui ont servi à le coudre. Vous voyez, c'est très vieux, ça, 1558.
Voilà un extrait de l'émission « À ma fenêtre » diffusée sur la ORTF et Monsieur Verdier, directeur des cultures au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors cette forme de représentation qu'est l'herbier est très présente dans l'exposition, Marc Johnson. Comment aujourd'hui la botanique, comment continue-t-elle de s'appuyer sur les herbiers ?
Alors, elle continue à s'appuyer sur les herbiers de plusieurs façons. Faut dire aussi que on a une très belle liste, très subjective et sélective de ces herbiers que nous avons pu entendre. Mais ces collections, premièrement, elles continuent à s'enrichir. En continuant à s'enrichir au Muséum à Paris, comme dans des milliers d'autres institutions botaniques de notre planète, elles continuent à apporter, à conserver des spécimens de plantes qui jusqu'à présent n'avaient peut-être pas encore été collectés. Donc il y a aussi beaucoup de choses inconnues qui continuent d'arriver au muséum. D'où la nécessité de continuer à décrire des espèces. On décrit chaque année des centaines et des centaines de nouvelles espèces de plantes. Donc il y a un rôle taxonomique de description des espèces qui continue d'être absolument prioritaire et essentiel pour les herbiers aujourd'hui. Et puis ce qu'il faut imaginer, on entendait là, l'ancienneté de certains herbiers, de certains spécimens par la voix d'un collègue du muséum qui décrivait ces herbiers. On voit que certains datent du XVIe siècle. On sait que l'invention des herbiers date du début du XVIe siècle. Et donc on a quelque part un recul de plusieurs siècles qui nous permet de poser sur une grande map monde mondiale, puisque quand on a la chance d'avoir un herbier de l'importance de celui du Muséum de Paris, qui compte à peu près 8 millions de spécimens, eh bien on arrive à une forme de cartographie rétroactive de la présence de telle ou telle espèce sur tel ou tel fragment du monde, et ça nous donne une force extraordinaire pour documenter, non pas cette fois-ci les caractéristiques d'espèces qui pourraient être nouvelles pour la science, mais la continuité de l'existence de telle espèce à tel endroit du monde, ou au contraire, son déplacement, son absence ou son extinction. Et ça, évidemment, dans le contexte que l'on traverse aujourd'hui, c'est absolument crucial.
Jean-Sébastien, d'ailleurs, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive sur l'importance des herbiers pour décrire morphologiquement les espèces?
C'est crucial, en fait. La description anatomique, botanique est vraiment la base, en fait, pour étudier l'évolution des espèces. D'où l'importance aussi du terrain pour collecter, que ce soit des plantes actuelles, fossiles ou d'autres organismes, et collecter, travailler en fait sur les collections et valoriser les collections d'une manière scientifique avec les publications.
Clotilde Moret, on a cette histoire des sciences, l'histoire des herbiers, et on voit qu'aujourd'hui, ces herbiers continuent d'inspirer les artistes.
Oui, alors nous on a des herbiers un peu particuliers dans l'exposition, puisqu'on a des photographies réalisées par Karl Blossfeldt, qui sont des photographies qui datent de 1928, alors qui ne sont pas vraiment des herbiers dans le sens où chez Blossfeldt, qui était un professeur aux arts décoratifs à Berlin, qui n'avait pas du tout d'intérêt à proprement parler scientifique envers les plantes, mais qui a réalisé des photographies absolument incroyables de dizaines et dizaines d'espèces différentes en gros plan. Donc c'est des images très détaillées. Et lui s'intéressait aux plantes dans un but d'apprentissage. Il voulait expliquer aux étudiants qu'en fait, il y avait des formes artistiques qui se trouvaient déjà naturellement dans la nature, dans les végétaux. Et donc, c'était aussi une manière d'enseigner les arts décoratifs. Et c'est des photographies où ces plantes sont prises en très, très gros plan. Elles deviennent presque abstraites, c'est-à-dire qu'on a du mal à reconnaître qu'il s'agisse vraiment d'espèces végétales. Et on a l'impression d'avoir des sortes de sculptures absolument incroyables en fer forgé. Et donc voilà, on a cette typologie aussi dans l'exposition d'herbiers, mais qui a peut-être d'autres désirs, d'autres optiques que d'être des objets scientifiques.
Clotilde Moret, l'idée principale de l'exposition, c'est quand même de faire transparaître ces différents regards sur les plantes. C'est une histoire visuelle des végétaux. Mais il faut commencer par dire que l'histoire visuelle des plantes, c'est d'abord celle d'une dépréciation. Vous évoquez ce concept qui est celui de la cécité botanique.
Oui, effectivement. C'est une exposition aussi qui est née pendant la crise du Covid en 2020. Et je pense que c'était aussi une période où on s'est beaucoup...
Jumping right in, yeah, we jumping right in, oh, yeah. Are we gonna sing?
votez Fréquence 3.
Fréquence 3.
Let's go!
Yeah.
France 3.
And I'm bound to seize it. Take a chainsaw out and feed it. Come alive when you don't believe it. Write me off and I'd love to read it. Spit your words and I'll watch you eat it.
C'est un collecteur fréquence 3.
connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre dans une autre ville pour l'estime comme quelqu'un de toujours poli, qu'il soit heureux ou qu'il soit triste, sans donner d'importance à la chance de voir cet homme ce soir qui rentre un peu moins tard. Ses enfants aiment leur père avec une impatience qui le laissera vieillir juste après leur enfance. Il y tourne sur un monde solitaire. Il y court. Il approche un autre ciel. On se souviendra de ceux qui commettent un crime. Un jour, de tous ces chasseurs primes. Et puis, d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. Oh, oh. Sans l'espoir d'apprendre à leur apprendre à ne pas compter les heures qui s'enroulent et qui meurent, que leur dire viennent sur terre juste pour y répandre un peu d'amour et quelques cendres. On se souviendra de ceux qui commettent la vie un jour de tous ces chasseurs. Cette femme a fui encore une autre vie pour la voir comme quelqu'un qui a bien réagi face à la mort et à l'oubli. Elle tourne sur un monde solitaire. Elle court. Approche un autre siècle.
Bonne fête de fin d'année sur Studio ZEF.
Waiting on a song. La musique de Johannes Brahms, Brahms qui a cherché pendant toute sa vie, notamment dans sa musique de chambre, à servir l'idéal que représentait pour lui la musique pure dans la lignée de la tradition germanique établie par Bach et par Beethoven. Nous écoutions l'Allegro non troppo, premier mouvement de sa première sonate pour violoncelle et piano en mi mineur, interprétée par Sol Gabetta au violoncelle avec la complicité de la pianiste Hélène Grimaud. Le prénom de Sol Gabetta n'a pas été choisi au hasard, mais il n'a rien à voir avec la musique. Et par ailleurs, notre artiste du jour parle un français presque parfait, en plus de 5 autres langues. Et elle est également une voyageuse infatigable. Et c'est le compositeur Antonín Dvořák qui se préparait au voyage au début des années 1890. À 51 ans, il est invité en Amérique pour diriger le Conservatoire National de Musique qui vient d'être créé à New York. Il hésite longtemps, invoquant son attachement à son pays, le riche héritage culturel de la Bohème, ainsi que sa famille et ses admirateurs. Mais quand il découvre que le salaire proposé était 25 fois supérieur à celui qu'il percevait à Prague, alors il n'hésite plus et il embarque sur le prochain bateau. Au début de l'année 1892, il organise une grande tournée d'adieu. Il donne plus de 40 concerts dans les plus grandes villes de Bohème. Et pour l'occasion, il compose ce rondo pour violoncelle et orchestre que voici. Pour violoncelle et orchestre en sol mineur, opus 94 d'Antonin Dvorak, interprété par Sol Gabetta au violoncelle avec l'orchestre symphonique de la radio danoise sous la direction de Mario Venzago. Toujours extrait de ce très beau disque, je vous propose une autre pièce de Dvorak composée 9 ans plus tôt. Elle est tirée du cycle Légende de la forêt de Bohème. À l'origine, ces pièces sont écrites pour piano à 4 mains, mais Dvorak va retravailler le 5e.
Vibration 2000, à écouter gratuitement sur vibration.fr, l'appli Vibration et Radio Player.
Chez Conforama, on baisse nos prix pour vous offrir de meilleures nuits.
Avec jusqu'à moins 50% sur la literie et le textile literie.
Et profitez de 10% supplémentaires pour l'achat d'un matelas et d'un sommier en 160 cm et plus. Conforama, jusqu'au 27 janvier, voir conditions sur Conforama.fr.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, ici Julien, votre primeur Leclerc.
Ah, Julien, une idée pour le menu du nouvel an?
Oui, mes beaux avocats affinés. En guacamole ou en verrine, on adore.
Et moi la première.
En plus, le lot de deux avocats affinés est à seulement 1,76€ du 27 au 29 décembre. Profitez-en.
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 88 centimes la pièce du lot indivisible, variété As, catégorie 1, calibre 203-243 grammes, origine Colombie, Chili et autres pays, voire détail en magasin. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Ikea.
Mon cœur, devine où je vais cet après-midi.
Chez Laetitia.
Encore mieux.
Chez tes parents.
Non, j'ai dit encore mieux.
Attends.
Je vais aux ventes privées Ikea.
Il y a des moments à ne pas rater. Jusqu'au 5 janvier, pendant les ventes privées, profitez de remises allant jusqu'à moins 50% avec la carte gratuite Ikea Family. Rendez-vous en magasin et sur Ikea.fr jusqu'au 31 décembre chez Ikea Metz.
Vibration s'écoute partout dans la région. Vibrez avec nous.
Hello monsters, this is Lady Gaga.
Salut, c'est Matt Pokora.
Hi, I'm Mark Amber.
Salut, c'est Henri PFR.
Salut, c'est Jane.
Hey y'all, this is Måneskin.
Salut, c'est Vita sur Vibration.
Vibration, vibrez avec nous.
départ, au grand départ. Fermez la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Comment ça va? Je ne sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie. Mais ne vous méprenez pas, mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, les faux pas, à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête.
Bienvenue, merci d'être là. On va écouter Karol G pour les sons latins, mais avant c'est l'actu.
Vibration, vibrez avec nous.
Et l'actu c'est avec toi, salut Guillaume.
Salut Jérémy, bonsoir à tous. C'était il y a 25 ans le passage sur la France des tempêtes Lothar et Martin, avec des vents à plus de 200 km/h sur les côtes, 10 millions de Français sans électricité, 1 million d'hectares de forêt ravagés. L'Aquitaine figurait parmi les régions les plus touchées, au bilan financier d'une dizaine de milliards d'euros s'ajoutait un lourd bilan humain avec 92 victimes. Une enquête ouverte après le suicide d'un conducteur de train le soir de Noël sur la ligne